France Culture.
Handicap, femmes, inclusivité, diversité, discrimination, non-binaire, transsexuel, transgenre, LGBT, historiquement, socioculturel, socio-économique, autant de mots et d'expressions désormais proscrits dans les dossiers de demande de financement à la recherche par l'administration de Donald Trump. À cette censure s'ajoutent des coupes budgétaires massives, l'interdiction de coopérations internationales, le limogeage de scientifiques, l'attaque verbale contre les sciences sociales, contre les sciences de la nature, contre les universités. Alors une question ce soir, pourquoi Donald Trump attaque-t-il la science et la recherche qui sont pourtant une dimension fondamentale de la puissance américaine? Que vise-t-il profondément et ce danger guette-t-il également l'Europe? Pour en parler, pour en débattre également, trois invités ce soir. François Gemen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique, l'équivalent du CNRS en Belgique. Vous êtes professeur à HEC, président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Face à vous, Claire Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein de l'Institut de Recherche en Informatique Fondamentale. Vous êtes membre par ailleurs de l'Académie des Sciences. Et avec nous, à distance depuis New York, Olivier Ney. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la sociologie des institutions, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur associé à l'Université Columbia et l'auteur de cet ouvrage intitulé « Histoire des idées politiques » qui est paru en 2021. Cher Armand Collin, merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Une grande partie de ce que nous voulons accomplir dans ce pays dépend fondamentalement de l'intervention d'un ensemble d'institutions très hostiles, en particulier les universités, qui contrôlent le savoir dans notre société, qui contrôlent la vérité, qui contrôlent ce que nous appelons la fausseté et qui fournissent des recherches qui donnent de la crédibilité à certaines des idées parmi les plus ridicules. Je suis donc ravi de clore cette conférence par cette série de remarques, car je pense que si nous voulons faire quelque chose pour notre pays et pour les gens qui y vivent, nous devons attaquer honnêtement et agressivement les universités de ce pays.
Attaquer honnêtement et agressivement les universités de notre pays, c'était la voix du vice-président américain J.D. Vance. Et on a appris par ailleurs que l'université Johns Hopkins, une référence mondiale de la recherche médicale, venait d'annoncer 2000 licenciements dans la foulée des coupes budgétaires aux États-Unis. François Gemen, est-ce qu'on est entré aux États-Unis, déjà pour commencer, dans un nouvel âge de l'obscurantisme?
Et plus rapidement qu'on ne l'aurait cru. Dès l'instant où vous identifiez que l'université, la science, la recherche, c'est votre ennemi, c'est la marque très clairement d'un régime totalitaire et vous rentrez dans l'obscurantisme. Et on a des conséquences qui se font déjà attendre. Ce sont évidemment les licenciements massifs, ce sont les interdictions de certains sujets de recherche dont vous avez parlé. C'est Johns Hopkins qui licencie 2000 personnes, c'est l'université Harvard, souvent considérée comme la meilleure du monde, qui annonce le gel de tout recrutement parce qu'elle ne veut pas se mettre en difficulté au vu de l'incertitude sur ses financements futurs. Et effectivement, c'est à la fois extraordinairement grave, et je pense à certains points malheureusement sans retour. Nous serions naïfs d'imaginer qu'il y aura un retour en arrière, je ne pense pas que ça se passera rapidement. Et ça dit beaucoup, effectivement, de ceux qui essayent de mettre, l'université à mal.
Claire Mathieu, je voudrais peut-être qu'on lève tout de suite une ambiguïté. Je l'ai dit, vous êtes tous les trois des enseignants-chercheurs. Et pourtant, votre démarche à tous les trois, votre réflexe même, n'est pas un réflexe corporatiste. Défendre la recherche, défendre les scientifiques, défendre les universités, ce n'est pas défendre une corporation, c'est bien plus que cela.
Ah oui, l'université est très importante dans la société. Elle assure la formation des jeunes pour développer leur esprit critique et les chercheurs globalement travaillent à essayer de déterminer chacun dans son domaine ce qui est vrai, aller au plus proche de la vérité par les discussions, les analyses et des méthodes qui dépendent du domaine. Elle ne contrôle pas la vérité, elle la recherche. Et ce que dit Vance, ça signifie que lui, il considère qu'il sait, il sait ce qu'il veut. Les universités ont des idées qui sont fausses, à son avis, et donc il ne veut pas de discussion, il veut juste écraser. Trump a la même attitude. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il considère que c'est d'abord de la déloyauté, et ensuite que c'est maintenant qu'il a été élu, on n'a plus le droit d'être en désaccord avec lui.
Comment est-ce que vous expliquez, Olivier Ney, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes sur un campus américain, celui de Columbia à New York, comment est-ce que vous expliquez que cette administration s'attaque à la recherche, à la science, aux universités, qui sont pourtant une part essentielle du modèle de la puissance américaine ?
Ben écoutez, je crois que en effet, il y a aux États-Unis actuellement la vague la plus importante d'attaques sur le monde des universités, et il y a des raisons qui peuvent paraître propres au programme qu'a développé Donald Trump en amont des élections, mais je crois qu'il y a surtout un mouvement anti-science qui est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine et qui dépasse la simple nébuleuse d'organisations, des idéologues, des médias d'opinion, des think tanks, des mouvements chrétiens qui ont porté des attaques depuis des années sur le monde de l'université. Il y a dans la société américaine également, et c'est à cela que le programme de Trump répond, un mouvement anti-science qui s'apparente à un mouvement anti-université qui est un mouvement qui est populaire, qui commence à s'enraciner dans une partie de la population et qui associe les sciences à un monde des élites, à un monde déconnecté qui produit des vérités qui seraient éloignées de leur sujet, de leurs intérêts, du bon sens qu'on leur prête et qui ne parle plus à la population.
Je voudrais qu'on tente de comprendre, François Gemène, ce qui vient de nous être dit là. Comment se fait-il que l'on puisse associer la science à une forme d'élitisme ou la science comme partie intégrante du monde des élites ? Qu'est-ce que cela signifie ? Comment est-ce qu'on peut comprendre, justement, dans le fond, qu'une partie de la population pense ainsi ?
Je pense qu'on observe depuis plusieurs années une forme de défiance vis-à-vis des institutions de nos démocraties, défiance vis-à-vis des politiques eux-mêmes, défiance vis-à-vis des parlements, défiance aussi vis-à-vis des médias, et donc d'une certaine manière défiance vis-à-vis de la science, des organisations scientifiques, des universités, qui sont perçues, et à juste titre, comme des institutions de la démocratie. Et donc quand vous avez l'impression qu'effectivement la démocratie joue contre vous, vous avez tendance à rejeter tous les éléments de ce système, et je pense qu'il y a beaucoup qui tient à ça. Puis, il ne faut pas nier non plus qu'il y a de véritables ingénieurs du chaos qui vont chercher effectivement à diffuser de fausses informations, à décrédibiliser la science, parce que le problème, quand vous racontez n'importe quoi ou quand vous mentez systématiquement, c'est que généralement la science n'est pas d'accord avec vous. Et ça, pour des régimes totalitaires, évidemment, c'est insupportable, et donc il faut essayer de faire taire les chercheurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés dans la démocratie de rechercher la vérité ou ceux qui s'en approchent, et de dire la science.
Claire Mathieu, je continue de tirer le fil que j'ai commencé à tirer. Dans le fond, comment est-ce que l'on peut associer effectivement la science à l'élitisme, à une forme, j'allais dire, peut-être aussi de défiance profonde ? Comment est-ce qu'on l'explique ?
D'une part, quand j'essaye d'expliquer mes travaux de recherche en dehors du cercle de mes collègues, ça n'est pas facile, parce que ces choses sur lesquelles on travaille après 10 ans, 12 ans, 15 ans d'études, on construit sur toute une accumulation de savoir, et c'est difficile d'extraire les idées essentielles pour les faire passer sans perdre la complexité des choses. Donc, c'est naturellement difficile, parce que c'est vrai que je pense que d'une certaine manière, la science, on peut la voir comme appartenant à l'élite du point de vue, non pas du point de vue argent, mais du point de vue de la formation intellectuelle. En revanche, si vous pensez par exemple aux médecins, les médecins, eux aussi, il faut qu'ils fassent je ne sais pas combien d'années d'études, mais quand un malade va voir son médecin, ben son médecin, il discute avec son médecin et il a quand même plutôt tendance à faire confiance à ce que lui dit son médecin, même s'il ne comprend pas tout, ou même s'il a une perspective différente ou partielle sur sa maladie ou ses problèmes. Et donc, c'est cette confiance, cette capacité à avoir une relation de confiance mutuelle où le médecin écoute le patient pour savoir quels sont les besoins du patient et le patient écoute le médecin. C'est cette relation qui me semble-t-il, est peut-être en train de se perdre.
Qui est abîmée, mais abîmé. Ça vous laissez entendre qu'il y a aussi une forme de responsabilité de la part du monde de la recherche, peut-être une responsabilité dans le fait de communiquer, le fait de montrer que les travaux menés par les chercheurs sont aussi d'intérêt général, ou alors je vous ai mal compris ?
Oh, j'ai dit ça, moi.
Non, c'est une question que je vous pose. Peut-être que dans la première partie de votre propos, ce que certains, ou en tout cas, ce que peut-être on aurait pu comprendre.
Disons que c'est difficile, c'est tout. J'ai pas dit qu'ils étaient... C'est intrinsèquement difficile. Voilà. Donc il faut vraiment des efforts des deux côtés.
François Gémen. Un effort de pédagogie à faire de notre part, nous chercheurs, à expliquer quel est l'intérêt des recherches et pourquoi certains domaines de recherche fondamentales qui parfois peuvent paraître sans intérêt, il faut le dire, ou sans implication immédiate, pourquoi en réalité c'est dans ces domaines de recherche fondamentales aussi que parfois vont venir les grandes innovations qui vont permettre de véritables progrès sociaux ou économiques. Un autre élément qui peut peut-être, et qui est spécifique aux États-Unis cette fois, qui peut peut-être expliquer cette défiance, c'est peut-être la localisation des campus universitaires. Il faut savoir, et j'imagine que certains de nos auditeurs le savent, peut-être pas tous, la recherche aux États-Unis est quand même concentrée dans quelques universités d'élite, Harvard, Columbia, Stanford, Berkeley, MIT.
Les deux grandes côtes Est-Ouest.
Voilà, et beaucoup de ces universités sont situées sur des campus qui sont des sortes de parcs assez luxueux à l'écart de la cité. Quand vous allez à Stanford, quand vous allez à Berkeley, quand vous allez à Yale, vous êtes sur des campus qui sont véritablement en dehors de la cité. Quelque part, l'université Columbia fait un peu exception à la règle avec son campus au cœur de New York. Et donc, ça peut donner l'impression, physiquement, géographiquement, d'avoir un peu des universités en dehors de la cité, déconnectées de la vie de la cité.
Olivier Ney, vous souhaitiez réagir?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que François Gémen évoquait à l'instant la déconnexion potentielle des universités par rapport à la société. Et il faut savoir que cette déconnexion, elle peut aussi avoir lieu par le bas. En fait, dans le cas du système éducatif américain, on a un système éducatif qui est éclaté, qui est décentralisé. Le secrétariat à l'éducation n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que le ministère de l'enseignement de l'éducation français. Il n'y a pas de conseil supérieur des programmes qui est chargé aux États-Unis de définir des programmes scolaires. Et donc, du coup, tous les standards éducatifs sont fixés au niveau des États et surtout, et aussi, au niveau local. C'est-à-dire qu'au niveau local, on va adapter des contenus, on va sélectionner des livres, définir des cours optionnels. Et ça conduit, à ce que des pans entiers du système éducatif, sous la pression des organisations de parents d'élèves, des associations familialistes qui sont très présents dans le système éducatif américain, vous voyez, il faut bien comprendre que c'est un système qui n'est pas du tout hiérarchisé, eh bien, on a là une dérive très lente qui s'est observée depuis une dizaine d'années d'écoles, y compris des écoles publiques. Hein, en Floride, on a interdit l'enseignement de la sociologie dans l'enseignement public, y compris des écoles publiques qui vont dériver. Je termine en disant qu'il y a 10 000 livres qui sont bannis des écoles aux États-Unis en ce moment. En 2023-2024, c'était 10 000 livres. Donc on voit qu'il y a aussi une sorte de déconnexion d'une partie du système d'enseignement aux États-Unis qui fait que les jeunes formés n'entrent plus dans la même réalité scientifique. Ils ont des enseignements, je pourrais y revenir, qui mettent en cause l'enseignement des sciences qu'ils ont habituellement enseigné dans les universités.
La voix d'un médecin chercheur en immunologie pédiatrique, chercheur français en médecine et thérapie génique, Alain Fischer, il s'exprimait sur l'antenne de France Inter le 5 mars dernier.
Jamais j'aurais pensé voir ça dans ma vie, donc je peux prendre l'exemple de mon domaine, au NIH, donc National Institute of Health, c'est le plus grand institut de recherche dans le domaine biomédical au monde, budget de 47 milliards de dollars. En quelques deux semaines, 1100 employés, c'est 6% des effectifs à Bethesda, là où il y a le centre du NIH, ont été virés. Je peux prendre l'exemple d'une jeune chercheuse postdoc indienne, 6 ans de travail remarquable dans un domaine de biologie cellulaire très précis au NIH, qui est virée du jour au lendemain. Elle est en recherche d'emploi. J'espère qu'on va pouvoir la récupérer en France. Il faut savoir qu'au NIH, par exemple, dans les deux semaines qui ont suivi l'arrivée de Trump, le nombre de contrats de recherche, le NIH attribue les contrats de recherche pour toutes les universités américaines. Le nombre de contrats de recherche a été divisé par 2. C'est colossal.
Claire Mathieu, on pourrait presque comprendre, j'allais dire tristement comprendre pourquoi Donald Trump s'attaque aux sciences sociales. Il les déteste. On peut aussi comprendre pourquoi il s'attaque aux sciences de la nature. Il ne croit pas au changement climatique ou fait semblant de ne pas y croire. Mais pourquoi s'attaquer à un domaine comme celui de la santé, de la médecine? Là, c'est beaucoup plus difficile, peut-être idéologiquement du moins, à saisir.
Je pense que en ce qui concerne la médecine, il y a la méfiance à l'égard des vaccins. Et puis Trump, au moment de la pandémie, a été ridiculisé quand il a suggéré de boire
de l'eau de Javel,
de l'eau de Javel quand on avait le Covid. Et je crois qu'il n'a pas supporté d'être ainsi traité comme un ignorant. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté personnel, des représailles contre un domaine qui ne le respecte pas.
C'est... François Gemmell, comment est-ce que vous-même vous analysez ces attaques et plutôt la cible de ces attaques, les sciences humaines, les sciences de la nature, la médecine? Là aussi, c'est trois cibles qui ne sont pas prises au hasard.
C'est sans doute des cibles qui ne sont pas au hasard, et souvent les régimes totalitaires commencent par essayer de faire fermer les départements de sciences humaines et sociales dans les universités. On a cité l'exemple de la sociologie en Floride. Javier Milei en Argentine voulait également fermer les départements de sociologie et de sciences politiques. Mais effectivement, ici, on touche à la fois aux sciences humaines et sociales, évidemment, mais aux sciences qu'on appelle dures, en recherche médicale, en climatologie, etc., etc. Alors ça tient, je pense, effectivement, notamment à des facteurs un peu personnels et idéologiques, et aussi peut-être à cette idée qu'il y avait beaucoup de chercheurs, que l'objet des travaux paraissait parfois un peu mystérieux, sans application immédiate, et qu'il fallait simplement dégraisser la machine et donc faire des licenciements massifs dans le cadre de ces programmes un peu doge, où en fait on va essayer de supprimer toute une série d'employés fédéraux dans toutes les administrations pour laisser sans doute davantage de place au secteur privé. Quand on s'attaque à la NASA, par exemple, on voit bien ce qu'il y a derrière. Il y a l'idée de faire fusionner la NASA et SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk.
Olivier Ney, comment est-ce que vous expliquez vous-même le choix de ces cibles? Je voudrais peut-être vous soumettre une théorie, celle dessinée par Valérie Masson-Delmotte l'autre jour sur l'antenne de France Inter. Elle disait que dans le fond, Donald Trump s'attaque aujourd'hui au développement durable, aux sciences qui constituent le développement durable, c'est-à-dire les sciences qui luttent contre les inégalités. D'abord, les sciences qui tentent d'approfondir la question du changement climatique et effectivement tout ce qu'on appelle les sciences de la durabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse ?
Oui, tout à fait. Alors ça s'explique un petit peu moins pour les enjeux de santé, même si on pense bien que la santé, c'est un élément du développement durable des personnes. Mais évidemment, oui, il y a une attaque généralisée. Je ne limiterai pas ça aux sciences du développement durable. Je pense que l'attaque d'aujourd'hui à toutes les sciences, parce que c'est ce qui est visé, c'est le statut de la vérité dans une démocratie. C'est la possibilité pour de partager un socle commun de vérité qui, à partir desquelles on peut penser des solutions. Et je crois que ça ne se limite pas aux disciplines du développement durable. Sur la santé, je crois que ce qui a été dit, il y a des éléments personnels. Il y a la question il y a le fait qu'en santé, il y a beaucoup d'interrogations sur les inégalités sociales, raciales. Et donc, ça participe aussi à la lutte qu'a engagé Trump sur les questions du wokisme. La santé, ça peut être un élément où on exprime aussi toutes ces inégalités sociales, ces discriminations, et ça participe donc à cet univers que Trump voudrait défaire.
Je voudrais aussi qu'on lève une autre ambiguïté, Claire Mathieu, les coupes budgétaires de Donald Trump, les choix politiques de son administration ont un impact direct également sur la recherche européenne. Je pense notamment en termes de coopération. Il faut nous expliquer, Claire Mathieu, de quelle façon justement ces coopérations internationales aujourd'hui en matière de connaissances, de recherche sont également affectées.
Je n'ai pas d'exemple direct là tout de suite. Je peux vous dire cependant que moi, j'avais prévu d'aller aux États-Unis cet automne et que mon séjour dans l'université qui allait m'héberger est remis en question à cause de problèmes budgétaires.
On peut peut-être trouver un lien direct cette fois-ci, François Gemmell, lorsque des chercheurs américains n'ont plus le droit de siéger, notamment dans les instances du GIEC, parmi les experts du climat. Je pense évidemment aux États-Unis qui se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a bien, bien d'autres problèmes, notamment liés à l'accès aux bases de données.
Oui, ou à l'interruption des programmes de collaboration avec l'IFREMER, par exemple, notre institut de recherche marine. Or, on le sait, sur les grands sujets globaux, que sont le climat, que sont la santé, par exemple, évidemment, la recherche est collaborative. Aujourd'hui, la recherche ne se fait plus tout seul dans son laboratoire ou dans ses bibliothèques, sauf dans de quelques rares cas, mais l'essentiel de la recherche est organisé à travers de vastes programmes collaboratifs qui associent plusieurs laboratoires, plusieurs universités. Et donc, dans ce cadre, évidemment, le retrait des États-Unis de plusieurs organisations, l'OMS, mais aussi le GIEC, sans doute va compromettre, d'abord, il faut le dire, une partie de la recherche, parce que les États-Unis fournissaient énormément de données à valeur disposition, énormément d'instruments sur lesquels nous nous sommes beaucoup appuyés, de la même manière que nous sommes beaucoup appuyés sur les États-Unis en matière de défense, c'est le cas aussi en matière de lutte contre le changement climatique, sur beaucoup d'outils d'observatoires américains, que les États-Unis, il faut le dire, étaient aussi un grand pays de recherche, avec énormément de chercheurs, et donc fournissaient des contingents importants dans ces organisations. Et puis enfin, si les États-Unis s'en retirent, et ici je pense au GIEC par exemple, on peut craindre que les États-Unis ne remettent en cause même la validité des travaux et des rapports qui sortent de ces organisations et ne les reconnaissent plus comme reflétant le consensus scientifique.
Comment est-ce que vous analysez vous-même, Olivier Ney, la fragilisation de ces coopérations? Quels impacts cela a sur la recherche européenne, la recherche française en particulier?
Alors, je suis moins à l'aise sur les... Moi, travaillant beaucoup sur les enjeux de santé mondiale, je suis particulièrement les programmes de recherche qui touchent les pays à ressources limitées. Et je sais, pour donner l'exemple de la santé mondiale, que les coupes dans la recherche qui ont été liées au démantèlement de USAID ont un impact énorme sur la connaissance qu'on peut avoir des maladies à l'échelle planétaire. Les États-Unis, c'est le plus gros financeur des programmes de recherche en santé, et ces coupes vont avoir un impact, alors là, bien au-delà de notre pays, hein, et même de l'Europe, sur notre connaissance générale des problèmes de santé dans les régions du monde. Ça va avoir, avoir un impact sur même la qualité de vie, l'espérance de vie des populations, parce qu'on n'aura plus de données suffisantes. Donc voilà.
Je voudrais revenir, Olivier Ney, sur un autre point, puisque vous êtes encore une fois aux États-Unis sur un campus américain, celui de Columbia. Est-ce qu'il existe sur ces campus aujourd'hui une forme de résistance à l'égard de ces choix politiques formulés par Donald Trump, à l'égard de ces coupes budgétaires? Est-ce qu'on voit se former des mouvements étudiants, des mouvements d'enseignants, chercheurs, justement, pour tenter de lutter contre ce qui est en train de se passer en ce moment?
Alors, moi je suis tous les jours sur le campus de Columbia, j'y étais ce matin. Je peux vous dire que ce qui m'a frappé, c'est le silence assourdissant qu'on observe sur le campus, qui est quand même le campus où sont nées les protestations contre la répression à Gaza. Donc, il y a quelques réactions d'associations, des professeurs d'université, des universités américaines. Il y a l'association des libertés civiques, qui est l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme, qui ont protesté, mais sur le campus, tout le monde fait profil bas. Et pour cela, moi, il y a l'effet de sidération. On a beaucoup de mal, évidemment, à comprendre. Mais moi, c'est pas mon interprétation. Je pense que mes collègues comprennent très très bien ce qui se passe, mais on n'en parle même pas. Je croise des collègues, j'essaie d'en parler. J'ai l'impression que c'est presque une honte d'arriver à aborder ces questions tellement les universités reçoivent un coup de massue. Et je pense que j'ai des collègues qui ont peur pour leur métier, qui ont peur pour leur poste. Je voudrais dire qu'on n'est pas loin aujourd'hui du maccartisme dans les universités. La secrétaire à l'éducation, dans une intervention il y a 3 jours sur CNBC, a dit qu'elle demandait au président d'université d'enquêter sur les enseignants et leurs enseignements pour savoir s'ils étaient de nature à provoquer des troubles sur les campus. Donc on va bientôt avoir des enquêtes qui vont être nominatives sur des enseignants si on observe.
La ligne étant de mauvaise qualité, je vais faire réagir Clé Mathieu, puisque vous souhaitiez justement réagir.
Je dois dire que j'ai parlé de ces problèmes avec mes amis aux États-Unis et collègues aux États-Unis. Il y en a certains que j'ai sentis réticents, qui n'ont pas voulu me donner d'exemples personnels dans leur université, qui m'ont dit « tu n'as qu'à regarder les médias ». C'est largement documenté, donc ça veut dire je ne veux pas en parler. Et ceux qui m'en ont parlé m'ont dit, si tu veux le répéter, surtout ne cite pas le nom de l'université, parce que nous avons peur de représailles. Et pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être pire que le maccartisme, parce que ce qui est attaqué, ce ne sont pas les gens qui sont attaqués à cause de leurs opinions politiques, mais à cause de la science qu'ils font. À cause de la recherche, c'est la recherche elle-même qui est la cible. Donc je pense que c'est, de ce point de vue, c'est pire que le maccartisme.
François Gemène, comment est-ce que vous expliquez, alors avec la distance, hein, puisque vous enseignez essentiellement en Europe, mais comment est-ce que vous tentez de comprendre, de mesurer cette atonie peut-être dans le champ, dans le secteur de la recherche, face justement à ce macartisme que vous décrivez tous les trois ?
Je suis complètement atterré, je n'ai pas d'autre mot, de la passivité des collègues américains. Je ne comprends pas comment il est possible d'être à ce point muet, mutique même, par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, la seule explication...
Il y a eu le mouvement tout de même, hein, Stand Up for Science.
Oui, mais enfin, bon, une aimable balade du dimanche, pardonnez-moi. La seule explication que j'y vois, c'est soit de la lâcheté, et c'est possible, soit de la terreur. Et je penche plutôt pour la seconde hypothèse. Je pense effectivement que les collègues sont absolument terrorisés, n'ayant pas peur des mots. La prochaine étape, c'est sans doute de mettre certains chercheurs en prison, à cause des domaines de recherche et qu'ils seront considérés comme de dangereux agitateurs politiques qu'il faut faire taire et qu'il faut mettre en prison. Et effectivement, on sent bien cette terreur, cette crainte des représailles, ce risque que si on parle, si on s'exprime, ce soit des collègues, voire soi-même, qui soient mis à la porte. Mais par contre, ce que je ne m'explique pas, et là je suis très en colère, c'est comment des collègues américains qui sont au sommet de leur carrière, qui sont proches de la retraite, qui ont eu tous les prix possibles et imaginables, tous les financements possibles et imaginables, et qui n'ont plus aucun enjeu en termes de carrière, comment ces collègues restent-ils silencieux ? Là, je n'ai pas d'explication.
Ceux-là aussi sont silencieux, vous le
constatez ? Ceux-là aussi sont silencieux.
Il y a évidemment la question de la mobilisation des universités françaises et je voudrais vous faire entendre la voix d'une chercheuse américaine qui vient d'arriver cette semaine à l'université d'Aix-Marseille. Elle explique peut-être les raisons de son arrivée en France et la façon dont elle a été accueillie.
Le principal impact des politiques de Donald Trump sur mon travail, c'est qu'elles ont créé un climat total d'incertitude et de peur. Et même si j'ai toujours un emploi, même si nous recevons toujours des fonds, il n'y a aucune information sur la poursuite de subventions. Par exemple, durant le premier mandat de Trump, nous ne pouvions pas utiliser le mot changement climatique dans nos demandes de subventions. Nous devions trouver des formules alambiquées. Et je pense que maintenant, c'est encore pire. Comment parler des femmes sans dire femmes ?
La voix d'Andrea Réfugié, scientifique à l'université d'Aix-Marseille. Elle est chercheuse spécialiste des maladies infectieuses et des épidémies. Olivier Nel, la connexion étant rétablie, une nouvelle question. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que beaucoup de chercheurs scientifiques, beaucoup d'enseignants réfléchissent aujourd'hui à quitter le pays ou du moins à exercer dans un autre endroit ?
Alors, j'ai pas de retour de collègues qui m'auraient évoqué l'idée de quitter le pays. En revanche, vous savez qu'aux États-Unis, vous avez un enseignement supérieur privé qui est très important, qui reçoivent des dotations budgétaires fédérales, hein, mais qui, d'une manière générale, ont une autonomie financière. Et c'est plus vers ces établissements-là que je verrai une fuite des cerveaux que vers l'Europe, où les salaires sont 2 à 3 fois moins élevés qu'aux États-Unis. Je rappelle qu'aux États-Unis, un professeur d'université de rang moyen va gagner 180 000 $ par an, hein, c'est l'équivalent de 15 000 $ par mois. Bon, vous imaginez le coût que ça peut représenter. Donc ils vont plutôt chercher, je pense, à évoluer à l'intérieur du système qu'aller à l'étranger. Mais je pense aussi qu'il faudrait que l'Union européenne puisse prévoir un grand programme d'accueil, comme ça a été fait avec le programme PAUSE pour les réfugiés venant de pays où ils étaient menacés. Un grand programme d'accueil avec des conditions d'accueil qui soient dignes pour pouvoir attirer des meilleurs esprits. C'est aussi une opportunité pour l'Europe d'avoir la possibilité de construire des campus prestigieux avec des personnes de très grande valeur. Il faut mettre les moyens.
C'est la responsabilité. Si vous mettez les moyens, on va y venir justement. C'est la responsabilité, Claire Mathieu, de l'Europe, de la France, des universités françaises d'accueillir justement les universitaires américains qui souhaiteront venir chez nous.
Je dois dire que je suis un peu gênée par le terme opportunité. Il se passe une catastrophe là-bas. En profiter pour aller prendre les chercheurs les plus prometteurs, ça me gêne. Il me semble que ceux qu'on pourrait naturellement vouloir accueillir, ce sont par exemple les Français expatriés aux États-Unis ou les Européens expatriés aux États-Unis, parce que cela, finalement, c'était le brain drain. Ils ont été attirés là-bas. Maintenant, là-bas, c'est la catastrophe. Ils pourraient revenir en France. Ils ont fait leur formation initiale en France. Ce serait pas absurde qu'ils viennent rapporter leurs idées, leur dynamisme et en faire profiter de façon plus géographiquement proches leurs collègues français et européens. Donc ça, ça me semble quelque chose qui peut se défendre.
Je pense à des collègues François russes, Jumaine. Par exemple, au moment de l'agression de l'Ukraine par la Russie, un grand nombre de collègues russes qui travaillaient sur le climat et qui étaient farouchement hostiles à cette guerre ont fui leur pays et beaucoup ont trouvé refuge aux États-Unis. Et je mets à leur place ces collègues qui travaillent sur le climat, qui il y a 3 ans ont fui aux États-Unis pensant trouver un refuge pour leurs recherches et qui se voient à nouveau sans doute contraints de trouver une autre terre d'accueil. Effectivement, je pense qu'ils rentreraient dans ce cadre. Mais je suis assez d'accord avec ma collègue. L'idée de profiter un peu de cette catastrophe aux États-Unis pour aller piller leurs ressources intellectuelles, ça me paraît quand même moralement assez discutable.
Pardonnez-moi, je vous coupe, c'est piller leurs ressources intellectuelles ou c'est leur permettre d'exercer leurs travaux, de faire avancer la recherche s'ils ne peuvent pas l'effectuer comme ils le souhaiteraient là-bas parce que la liberté académique, la liberté de recherche n'est plus permise.
Oui, évidemment, il y a une sorte de devoir d'être un peu terre d'accueil, mais je suis assez d'accord sur l'idée de l'opportunité. Qu'il y ait beaucoup d'esprits brillants aux États-Unis dans les quartiers américaines, c'est indéniable. Nous avons aussi énormément d'esprits brillants en France et en Europe, qui pour beaucoup ne trouvent pas de poste. Et je crois que le signal qui nous est adressé en Europe, c'est celui de la nécessité d'une protection absolue des libertés académiques. Et on voit combien il y a eu des tentatives aussi ces dernières années d'aller organiser un peu des chasses à l'homme contre tel ou tel collègue dans des universités. Je pense notamment au relevé sur l'islamo-gauchisme, on a dressé des listes de professeurs et de chercheurs déviants. Et puis, évidemment, il y a la question des financements aussi. Et je pense qu'il faut bien comprendre que la question du financement de la recherche, c'est aussi le financement de l'innovation, donc le financement du futur.
Et à ce sujet, je voudrais rappeler un chiffre. Le budget de l'enseignement supérieur par étudiant, une fois l'inflation prise en compte, a baissé entre 2012 et 2025 de 22%. Ce qui pose donc une double question. La première, c'est celle des moyens, Olivier Ney. Comment est-ce qu'on accueille avec le niveau de salaire américain ces enseignants-chercheurs en France d'abord? Et ensuite, cela fait sans doute aussi des années qu'on explique qu'il est difficile d'ouvrir des postes dans les universités françaises. Est-ce que là aussi, on peut se permettre d'ouvrir des postes pour des personnes qui ont exercé très longtemps aux États-Unis?
Oui, alors d'abord, je voudrais juste corriger en un mot. L'idée, c'est pas d'aller piller, évidemment, les ressources intellectuelles aux États-Unis. Hein. C'est, comme j'ai tenté d'exprimer, d'accueillir des chercheurs qui sont menacés et inquiets pour leurs travaux. Je ferme la parenthèse. Sur la question des moyens, évidemment, c'est une question qui est absolument fondamentale. On a une université publique française dont la qualité est incontestable en termes de recherche, mais dont les moyens sont en réduction constante par rapport aux besoins. Et c'est une tendance qui traverse les quatre dernières présidences de la République. Pour vous dire, c'est pas une tendance qui est liée à une mouvance politique, c'est que il y a une situation catastrophique de l'université française à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir réaliser des recherches, développer des grands programmes et attirer des chercheurs étrangers. Je ne vais pas vous faire la litanie des conditions de précarité du monde de la recherche, mais c'est une réalité.
Il est relativement facile aujourd'hui, même confortable, Claire Mathieu, d'avoir Donald Trump pour adversaire politique, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en France également, la recherche, l'idée même de la recherche, de l'intérêt de la recherche, est-ce que tout cela aujourd'hui vous semble peu à peu menacé?
Eh bien, il y a des petites phrases qu'on entend, qu'on se met à réentendre, que j'ai entendues plusieurs fois ces années dernières. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
C'était déjà peut-être une paraphrase du général de Gaulle.
Ça me dit quelque chose,
cette phrase.
Mais c'est ressorti, je l'ai entendu plusieurs fois ces années dernières. Tous à la solde des laboratoires pharmaceutiques. Les chercheurs qui prônent certains médicaments ou l'usage des vaccins. C'est vraiment. Donc il y a ces idées comme quoi les chercheurs, d'une part, ils ne font rien, ils gaspillent l'argent public. Et d'autre part, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils sont à la solde des laboratoires privés qui les financent. Donc ça, c'est une petite musique qui va croissant. Il y a eu cette histoire d'islamo-gauchisme là, qui était incroyable. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'islamo-gauchisme au travail.
Qui avait été exprimé, on le rappelle, par Frédéric Vidal, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Mais ça, c'était quelque chose qui n'existait pas dans mon monde, dans le monde de l'ESR autour de moi. Et puis, d'un seul coup, on s'est mis à lire dans les médias, ah, il y a un problème avec l'islamo-gauchisme à l'université. Incroyable. Bon, donc il y a effectivement cette tendance, et puis ce qui a été très choquant récemment, il y a eu un ou deux incidents, en particulier le mur dressé à l'entrée de l'INRAE, un mur de parpaing. Donc ça, c'est très violent, en fait.
Il faut peut-être rappeler de quoi il s'agissait, même visuellement, pour nous et pour les auditeurs qui ne le sauraient pas.
Oui, il s'agissait d'un syndicat, je crois que c'était les jeunes agriculteurs, qui ont muré un matin. La porte, l'entrée de l'INRAE était murée en protestation contre certaines des recherches faites par l'INRAE. Et donc, et certaines des préconisations. Alors que les chercheurs de l'INRAE essayent d'aider l'agriculture française, quand même. Donc ça, c'est très déstabilisant parce que ça montre cette déconnexion entre le monde de la recherche et le monde des applications de la recherche dans la société. Donc tout ça, c'est inquiétant.
François Gémen, en France, en Belgique, est-ce que là aussi vous constatez ces mêmes symptômes? Est-ce que vous partagez ces inquiétudes?
Oui, alors heureusement, nous n'en sommes pas du tout au stade des États-Unis, mais malgré tout...
Le spectre est large.
Le spectre est large, et prenons garde à ne pas voir cela uniquement comme une forme de particularisme américain. On voit bien que dans le populisme, il y a quand même malgré tout ce rejet de la science et de la recherche, et c'est vrai que de ci, de là, on entend telle ou telle petite phrase ou tel article dans les journaux. Je me souviens d'un article publié encore récemment dans la presse française. À quoi sert le CNRS? Et donc, on a ces mises en cause qui parfois reviennent et il faut y être extrêmement attentif. Parce que je pense qu'effectivement, les pointer, ce n'est pas faire une sorte de plaidoyer corporatiste pour défendre une corporation, c'est une question démocratique fondamentale.
Là aussi, Olivier Ney, vous qui travaillez des deux côtés des rives de l'Atlantique et vous êtes au bout du spectre, hein, peut-être le bout le plus grave, mais est-ce que vous êtes inquiet pour la recherche française, pour le travail des chercheurs européens en général ?
Ben, tout à fait. Je partage tout à fait ce qui a été dit par mes collègues. On sent monter ce que Claire Mathieu appelait une petite musique, qui est ce que j'appelle un anti-intellectualisme d'atmosphère. C'est-à-dire que on a de plus en plus dans les médias, au Parlement, des députés qui sont pas forcément des partis aux extrêmes, qui pratiquent la disqualification généralisée de certaines disciplines, de l'université en général, de la recherche, à partir de mots valises qui ont été évoqués, l'islamo-gauchisme, le wokisme, la cancel culture, autant de choses que nous, en interne, on ne voit pas. Il peut y avoir bien sûr un débat sur le pluralisme à l'intérieur des universités, mais on sent à l'extérieur une forme d'hostilité généralisée, au point qu'un député a pris l'initiative d'établir une liste nominative de chercheurs qui travaillaient sur des sujets qu'il estimait dangereux. C'est absolument inouï qu'en France, on ait des élus politiques qui commencent à définir ce que devrait être le travail des chercheurs et dans quelle direction ils devraient aller. Et ça vient parfois de nos propres autorités de tutelle. Je ne citerai pas les ministres de l'enseignement supérieur qui, depuis quelques années, jettent un voile de suspicion sur les travaux de collègues. Et là, je pense que ce sont les libertés académiques qui sont en danger. Et elles le sont aux États-Unis de manière extrêmement grave, puisqu'il y a une offensive budgétaire, policière et judiciaire. Mais en France, on est quand même sur un chemin qui nous mène lentement vers cette situation.
Défendre donc François Gémen d'un mot.
Un tout petit point. Ne pas oublier que les universités, ce sont évidemment des lieux de recherche, ce sont aussi des lieux d'enseignement où les jeunes passent énormément de temps et qui donc à ce titre sont aussi parfois des foyers de contestation sociale et politique. Et ces attaques contre les universités, c'est aussi des attaques contre la jeunesse.
Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion importante et inquiétante. François Gémen, Claire Mathieu, Olivier Ney.